Brothers and sisters,
frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la veillée du département d'éducation de l'Église pour les jeunes adultes. Cette émission est diffusée à partir du centre mormon, près du temple de Sacramento, en Californie, aux États-Unis. Cette veillée est interprétée en plusieurs langues pour les jeunes adultes du monde entier, en âge d'aller à l'université. Je suis Daniel B. Harrison, président du bureau de Folsom, en Californie. Nous souhaitons la bienvenue à Marlene K. Jensen, des 70, et nous sommes reconnaissants que Sœur Jensen l'accompagne ce soir. Plus tard dans ce programme, nous aurons la présentation de Frère Jensen, qui est l'orateur de ce soir. Nous souhaitons une bienvenue toute particulière à tous ceux qui se joignent à nous ce soir et qui vont terminer leurs études secondaires ou qui quittent le séminaire pour l'Institut ou pour un établissement d'enseignement supérieur de l'Église. Nous vous remercions d'être venus. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous. Nous vous recommandons de vous inscrire aussi rapidement que possible dans un institut ou dans un cours de religion et de faire partie de ce formidable programme d'instruction religieuse pour les jeunes adultes. Nous savons que ce programme constituera une bénédiction pour vous, comme il l'est pour des centaines de milliers de jeunes adultes du monde entier. Nous sommes reconnaissants que les 70 d'interrégion et les administrateurs du DOE locaux soient présents, de même que les présidents de pieux de l'interrégion de Sacramento avec leurs épouses. Nous vous rappelons que dimanche 9 septembre 2012, Jeffrey R. Holland du Collège des 12 Apôtres sera l'orateur de la veillée du DOE. Pour commencer cette veillée, le chœur et l'assemblée chanteront le cantique « La première prière de Joseph Smith ». Cantique 14 dans le recueil des cantiques français. Nous remercions Stéphanie Morgan qui dirigera la musique et Richard Klinger qui nous accompagnera. Après le cantique, Jason Dickerson fera la prière d'ouverture.
Thank you.
Cher Père Céleste, nous sommes très reconnaissants de l'occasion que nous avons de nous réunir ce soir. Nous sommes très reconnaissants que Frère Jensen s'adresse à nous. Nous te prions de bien vouloir le bénir pendant son discours pour que nous puissions tous être édifiés et poussés à agir. Nous sommes reconnaissants d'être membres de ton Église et nous te remercions pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et pour tout ce qu'il a fait. Et nous te prions de veiller sur toutes les personnes qui participent à la réunion de ce soir. C'est là notre prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, le chœur de jeunes adultes interprétera « Seigneur, je te suivrai ». Il est dirigé par Paul Allen et accompagné par Richard Klinger. Après ce cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Frère Jensen. À la fin du discours de Frère Jensen, le chœur interprétera « Vas-tu faiblir aux jeunesses ?» Ensuite, Chandra Brown fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter notre orateur de ce soir. Marlon K. Jensen a été nommé membre du premier collège des 70 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours le 1er avril 1989. Au moment de son appel, il était représentant régional après avoir été président du pieu de Huntsville en Utah, aux États-Unis, et évêque de la paroisse de Huntsville. Durant ses 23 années de service comme 70, Frère Jensen a servi comme président de la mission de Rochester à New York, président de trois interrégions de l'Église, directeur exécutif de trois départements de l'Église et dans la présidence des 70. Depuis avril 2005, il est historien. Il est historien et greffier de l'Église. Avant son service à plein temps dans l'Église, Frère Jensen était avocat et fermier. Sa femme et sa compagne, depuis 45 ans, est Kathleen Bushnell. Ils considèrent leur mariage et leurs huit enfants et 25 petits-enfants comme leur plus grande joie et leur plus grande réussite. Frère Jensen fêtera ses 70 ans ce mois-ci et conformément à la règle, il sera relevé de son appel de 70 et sera nommé autorité générale émérite en octobre à la conférence générale de l'Église. Son discours de ce soir constituera sa dernière occasion de s'adresser à une assemblée mondiale de saints des derniers jours. Chant par le cœur.
Good evening, brothers.
Bonsoir, mes frères et sœurs. Je suis très reconnaissant et honoré d'avoir reçu de la première présidence la tâche de choix de vous parler ce soir. Puisque le président Harrison a annoncé mon 70e anniversaire, j'aimerais seulement dire qu'il y a une époque où je n'avais pas de cheveux blancs, où j'étais sans rides et plein de vie, comme vous, qui faites partie de ce que les Écritures appellent la génération montante. Je ne sais pas vraiment si l'antonyme ou l'opposé correct de montante est fléchissante ou déclinante, mais il décrit en tout cas la période de la vie dans laquelle je me trouve actuellement, et cela ne me paraît pas très prometteur. Bien que je vous parle dans une magnifique église proche du temple de Sacramento en Californie, je vous imagine très bien, vous, ces dizaines de milliers de jeunes, parlant près de 40 langues différentes, qui êtes assemblés partout dans le monde. J'ai eu la bénédiction de visiter beaucoup de vos pays, de vous entendre parler et rendre témoignage dans votre langue maternelle, et d'avoir été le témoin direct de votre foi et de votre dévouement au Seigneur. J'aime votre droiture et je vous félicite. Je sais qu'à votre âge, la vie peut être difficile. Je sais aussi que parfois nous faisons des erreurs et avons besoin de nous repentir. Mais je vous remercie sincèrement d'essayer de rester ferme dans votre foi au Christ et en son évangile rétabli. Ce soir, mon désir le plus cher est d'avoir la bénédiction de parler par le pouvoir du Saint-Esprit et ainsi de contribuer à faire grandir votre foi. Je voudrais parler, pour commencer, d'endroits sacrés. Sur la terre, il y a des endroits qui sont devenus sacrés à cause de ce qui s'y est produit. Selon l'Ancien Testament, l'un de ces endroits est le Sinaï, ou la montagne de l'Éternel, où le Seigneur est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Alors que Moïse s'approchait du buisson, le Seigneur lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Ma famille et moi avons eu autrefois la bénédiction de vivre dans un endroit sacré. En 1993, 4 ans après mon appel au 70, nous avons été appelés à œuvrer pendant 2 ans dans la mission de Rochester, New York. Cette mission comprend les villes de Palmyra, où Joseph Smith et sa famille ont vécu pendant une grande partie des années 1820, et de Fayette, où l'église a été organisée en avril 1830. Dans l'état de Pennsylvanie, à environ 177 km au sud de Palmyra, se trouve le site d'Harmonie, où Joseph Smith a rencontré Emma Hale et où ils ont vécu, jeunes mariés, à la fin des années 1820, pendant la traduction de la plus grande partie du livre de Mormon. C'est une région à laquelle on a donné le nom de « berceau du rétablissement », car c'est là que l'Église est née. C'est un endroit pittoresque, caractérisé par des collines boisées, des lacs et des cours d'eau limpides, ainsi que des gens chaleureux et hauts en couleur. C'est aussi un endroit qui est devenu sacré à cause de ce qui s'y est produit. Au printemps de l'année 1820, près de Palmyra, environ 400 mètres à l'ouest de la maison familiale de Joseph et Lucy Maxmead, dans un bosquet de hêtres, de chênes, d'érables et d'autres arbres imposants, Joseph Smith, alors âgé de 14 ans, a vu Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Cette manifestation divine, répondant à la prière de Joseph, pour connaître la vérité sur la religion et sur la façon dont il pouvait obtenir la rémission de ses péchés, est le premier acte du rétablissement de l'Évangile dans cette dernière dispensation. Elle a aussi fait de ce bosquet un lieu révéré dans l'histoire de notre Église, un endroit que nous honorons du nom de bosquet sacré. Quand j'étais président de mission, ma famille et moi avons appris à aimer ce bosquet et à ressentir son caractère sacré. Nous y allions souvent. Chaque mois, quand de nouveaux missionnaires arrivaient et que ceux qui avaient terminé leur mission repartaient, nous les y emmenions. Nous avions l'habitude de les rassembler à l'une des entrées du bosquet et après avoir chanté le cantique d'ouverture de ce soir, qui, soit dit en passant, a été chanté de manière magnifique, la première prière de Joseph Smith, nous invitions les frères et les sœurs à se disperser et à trouver, dans le bosquet, un endroit isolé où chacun d'eux pourrait communier avec Dieu par la prière, et pourrait lui faire rapport de ses engagements personnels envers lui. Ces visites au bosquet sacré sont toujours des expériences précieuses pour tous ceux qui ont eu la bénédiction de les vivre. Évidemment, je m'en rends bien compte que seul un petit nombre d'entre vous pourra un jour visiter en personne le bosquet sacré. Pour cette raison, en ce printemps 2012, 192 ans après la première vision de Joseph Smith, j'aimerais que vous m'accompagniez virtuellement dans le bosquet sacré. Venez-y avec moi ce soir, pendant que je vous parle de certaines scènes visuelles du bosquet, des raisons de mon amour pour cet endroit sacré et des précieuses leçons de vie que l'on peut y apprendre. Ma reconnaissance va à Robert Parrott, forestier et naturaliste employé de l'Église vivant à Palmyra, qui a attiré mon attention sur certaines idées au sujet du bosquet sacré dont je vais vous parler. Bien qu'il ne soit pas encore membre de notre Église, frère Parrott révère le bosquet sacré et lui apporte un soin très professionnel. En marchant avec révérence dans le bosquet sacré, ou en m'asseyant sur les bancs qui sont à la disposition, j'ai souvent réfléchi à l'abondance de l'imagerie scripturaire comportant des arbres, des semences, des fruits, des racines et des forêts. Adam et Ève, nos premiers parents, ont indubitablement reçu la première leçon d'arboriculture. Le prophète Jacob, citant Zénos dans le livre de Mormon, propose une allégorie complexe, l'histoire de l'olivier franc et de l'olivier sauvage, pour parler de la dispersion et du rassemblement d'Israël. Et qui parmi nous, surtout s'il a été missionnaire, n'a pas lu, relu et médité dans un esprit de prière sur l'histoire de la semence de foi qu'Alma nous invite à planter et qui, avec des soins diligents et patients, ainsi que de la nourriture appropriée, deviendra un arbre jaillissant jusque dans la vie éternelle. Il en est de même pour le bosquet sacré. Un observateur attentif de la nature peut apprendre des leçons importantes sur l'écosystème du lieu, surtout s'il est accompagné par un naturaliste du calibre de Robert Parrott. Ce soir, je vais brièvement vous parler de quatre de ces leçons. Première leçon, les arbres poussent toujours dans la direction de la lumière. Il est intéressant d'observer un phénomène concernant les arbres qui poussent à l'orée de la forêt originale du bosquet sacré, ainsi que ceux qui bordent un grand nombre des sentiers intérieurs. Ils ont poussé souvent vers l'extérieur pour échapper au feuillage créant trop d'ombre au-dessus d'eux, et vers le haut pour absorber un maximum de lumière du soleil. Leurs branches et leurs troncs tordus contrastent de façon saisissante avec les arbres voisins qui poussent presque parfaitement droit. Les arbres, comme presque tout organisme vivant, ont besoin de lumière pour survivre et se développer. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour absorber un maximum de lumière du soleil, pour promouvoir la photosynthèse, le procédé de conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique, qui est le carburant utilisé par presque tous les organismes vivants. Je suis certain que vos jeunes esprits vifs voient déjà où cette métaphore du bosquet sacré va nous mener. La lumière est un catalyseur encore plus important dans le royaume spirituel que dans la nature. Et ce, parce que la lumière est essentielle à notre progression spirituelle et à la réalisation de tout notre potentiel de fils et filles de Dieu. Les ténèbres sont l'opposé de la lumière et représentent les forces de ce monde qui cherchent à nous séparer de Dieu et à réduire à néant son plan divin pour notre vie. C'est souvent de nuit ou dans les endroits sombres que les forces du mal exercent leur plus grande influence. À cette période de votre vie, c'est généralement en profitant de l'obscurité qu'on se lance dans les manquements à la loi de chasteté, au vol, au jeu d'argent, à la désobéissance, à la parole de sagesse et à d'autres comportements interdits par notre Père Céleste. Et même quand nous choisissons de mal agir en plein jour, par exemple en trichant un examen, en commettant un plagiat, en disant méchamment du mal de quelqu'un, en blasphémant ou en mentant, nous ne pouvons pas nous empêcher, dans ces cas-là, d'avoir des sentiments obscurs. Heureusement, l'Esprit du Christ donne la lumière à tout homme qui vient au monde. Et l'Esprit éclaire partout dans le monde tout homme qui écoute la voix de l'Esprit. Et quiconque écoute la voix de l'Esprit vient à Dieu Oui, au Père. Ce passage des Doctrines et Alliances décrit merveilleusement la tendance de l'homme à s'élever et l'instinct spirituel naturel donné par Dieu que nous avons tous, si nous ne l'étouffons pas, qui nous pousse à aller vers la lumière et, ce faisant, aller vers Dieu et vers son Fils pour mieux leur ressembler. Le Christ a dit de lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si vous comprenez les Écritures, vous arrivez à découvrir beaucoup de choses sur un mot, d'après les mots qui l'accompagnent. Dans votre étude des Écritures, notez comme les mots « lumière »,« esprit », »,« vérité » et « Jésus-Christ » sont souvent près les uns des autres et sont presque synonymes et nous attirent tous vers un mode de vie plus élevé et plus sain. Je vous exhorte de tout mon cœur à éviter les ténèbres du péché sous toutes ses horribles formes et à remplir votre vie de l'Esprit, de la vérité et de la lumière de notre Sauveur, Jésus-Christ. Vous pouvez le faire de nombreuses façons et je vous suggère celle-ci. Recherchez de bons amis, de la musique et de l'art inspirant, de la connaissance dans les meilleurs livres, en particulier les Écritures, des moments de prière sincères, des moments calmes dans la nature, des activités et des conversations saines, et une vie centrée sur le Christ et sur ses enseignements d'amour et de service. Souvenez-vous toujours, et surtout dans votre recherche d'un conjoint éternel, de la déclaration du Seigneur, que la vérité embrasse la vérité, la vertu aime la vertu, la lumière s'attache à la lumière. Ce principe de la bonté qui s'attache à la bonté nous donne de l'espoir que si nous menons notre vie dans la lumière de l'Évangile, nous finirons par trouver un conjoint qui marche sur un chemin parallèle de bonté et de justice. Je sais que plus nous essayons de remplir notre vie de lumière, moins il reste de place pour les ténèbres et plus nous deviendrons, finalement, comme le Christ, la lumière du monde. Du fait de l'occasion spéciale que j'ai de vous parler ce soir, jeunes saints des derniers jours exceptionnels, je vais élever une voix d'avertissement, mais aussi d'encouragement et d'espoir au sujet des ténèbres qui vont inévitablement infester votre vie si vous vous engagez dans la pornographie. L'utilisation de matériel pornographique, quel qu'il soit, offense Dieu et enfreint son commandement de ne pas commettre d'adultère ni de ne rien faire de semblable. L'usage de la pornographie conduit presque toujours à d'autres transgressions de la loi de chasteté. L'exposition répétée à du matériel pornographique et à la participation aux formes de transgressions sexuelles qui s'ensuivent généralement peuvent créer une dépendance qui devrait être traitée avec la même attention que celle réservée à la dépendance à l'alcool ou aux drogues. Si la pornographie a déjà infesté votre vie et est un problème persistant et récurrent, je vous supplie de demander de l'aide, aussi bien ecclésiastique que professionnelle. Sachez que la dépendance à la pornographie n'est pas simplement un petit problème que vous pourrez vaincre discrètement en priant, en lisant les Écritures et en faisant preuve d'une plus grande maîtrise de vous-même. Parce que la dépendance à la pornographie peut diminuer votre pouvoir de choisir le bien plutôt que le mal, il vous faudra de l'humilité pour accepter l'expiation de Jésus-Christ et pour recevoir les bénédictions du pouvoir habilitant de l'expiation. Ce que cela signifie sur le plan pratique, c'est que si, avec l'aide de votre évêque ou de votre président de branche, vous faites vos meilleurs efforts, ce qui comprend le processus du repentir pour obtenir le pardon de vos péchés, et vous soumettez à un programme intensif de guérison, comprenant un accompagnement professionnel et peut-être une thérapie de groupe pour vaincre votre dépendance. Si vous faites cela, le pouvoir habilitant de l'expiation, que le dictionnaire biblique qualifie de « moyen divin d'aide » ou de « force », ce pouvoir habilitant vous aidera à surmonter la compulsion de la dépendance à la pornographie et avec le temps, à guérir de ses effets corrosifs. Par le pouvoir de l'expiation, le pardon du péché et la guérison de la dépendance sont possibles. Et les deux sont merveilleux. S'il vous plaît, fuyez les ténèbres. Et comme les arbres, cherchez toujours à progresser vers la lumière. Deuxième leçon. Les arbres ont besoin d'opposition pour remplir la mesure de leur création. On a suivi, au cours des années, diverses écoles de pensée en matière de sylviculture pour l'entretien du bosquet sacré. À un moment donné, on a choisi une parcelle test et on a eu recours à un éclaircissage sélectif. Cela marchait ainsi. Les forestiers sélectionnaient les jeunes arbres dont ils pensaient qu'ils étaient potentiellement les plus grands et les plus sains de la parcelle test. Ensuite, ils coupaient et élaguaient les arbres les moins prometteurs et le sous-bois qui était en concurrence. Ils se disaient qu'en retirant une grande partie de la concurrence pour l'eau, le sol, les nutriments du sol, les arbres choisis ainsi favorisés pourraient grandir et se développer de façon extraordinaire. Après quelques années, il est devenu évident qu'en fait, c'est exactement le contraire qui se produisait. Une fois à l'abri de toute concurrence, les arbres choisis se laissaient aller. Au lieu de s'étirer vers la lumière, ils ont vu leur croissance verticale ralentir. Ils ont produit beaucoup de branches basses qui allaient devenir inutiles. Une fois la voûte refermée, ils sont devenus plus gros. Cela me parle. Dans le même temps, les arbres arrachés ont repoussé sous forme de buissons à troncs multiples qui ne deviendraient pas des arbres viables, mais continuent à recevoir leur part d'eau et de nutriments. Ces buissons concurrençaient toujours les arbres choisis, mais pas d'une façon qui aurait favorisé une croissance positive, que ce soit chez les arbres ou chez eux. Le résultat, c'est qu'aucun des arbres de la parcelle test n'a eu une taille ou une vitalité comparable à celle des arbres laissés libres de grandir naturellement et qui avaient dû vaincre l'opposition pour survivre et prospérer. Comme vous le savez, l'un des points de doctrine clés du Livre de Mormon est qu'il doit y avoir l'opposition à toute chose. Un monde comportant de l'opposition offre des choix entre le bien et le mal, de sorte que le libre arbitre peut agir. Mais chose tout aussi importante, le principe de l'opposition doit exister pour qu'il y ait progression spirituelle, ou comme Léhi l'a dit, pour que la sainteté puisse s'accomplir. J'insiste, il est essentiel de comprendre ce principe, à savoir que la progression spirituelle nécessite opposition et adversité, et même adopter ce principe à votre âge, si vous voulez accepter la vie et en être généralement satisfait. C'est aussi essentiel pour connaître la progression et le développement dont vous avez besoin. Tôt ou tard, nous rencontrerons tous l'opposition et l'adversité. Cela se produira parfois simplement parce que nous sommes ici dans la condition mortelle, dans un monde déchu. C'est le sort commun à toute l'humanité. Ce genre d'opposition peut prendre bien des formes. Elle peut impliquer des forces de la nature. Elle peut prendre la forme d'une maladie. Personnellement, j'ai réussi à attraper la grippe alors même que j'étais vacciné. Elle peut venir sous forme de tentation. Pour certains, ce sont des attentes non satisfaites. J'aurais adoré mesurer 1,95 m, mais j'ai appris à me contenter du 1,72 m qui m'a été accordé, ainsi que de l'inévitable abaissement de la chair à chaque fois que je dois faire un discours. Elle peut aussi prendre la forme de la solitude ou d'imperfections et handicaps physiques ou mentaux. La liste des forces d'opposition est presque infinie, mais c'est aussi le cas pour les bénédictions de la progression et du développement personnel. Si nous avons assez de foi pour voir les choses à long terme et pour tout supporter. Je tire un grand réconfort de ce que le Seigneur a dit à Joseph Smith dans la prison de Liberty, un moment où les fardeaux de Joseph étaient presque insupportables. « Sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. » Parfois, l'opposition et les épreuves découlent de nos mauvais choix, la mauvaise santé ou les blessures qui peuvent résulter d'un mode de vie imprudent, la souffrance et la douleur qui surviennent quand on enfreint les lois de Dieu, le regret que nous ressentons après coup quand nous n'avons pas tiré le meilleur parti de notre temps et de nos talents, toutes ces conditions, nous les attirons nous-mêmes. Combien nous devrions être tous reconnaissants à notre Sauveur dont l'expiation nous offre le moyen de réparer tout ce qui est cassé. J'ai remarqué que lorsque nous rencontrons de l'opposition, nous demandons souvent « Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi cela ?» Alors que demander « Quoi ?» serait plus constructif. Un jour, j'ai envoyé une lettre de réconfort à un couple en détresse parce que le mari mourait d'une maladie incurable. Leur réponse m'a touché. Ils ont énuméré les bénédictions que Dieu leur avait données pendant toutes les années de leur vie commune et ils se demandaient ce que Dieu essayait de leur apprendre dans cet enseignement final. Il y a dans le bosquet sacré des arbres que Frère Parrott appelle « arbres de caractère ». Ce sont des arbres qui prouvent que l'opposition peut tourner à notre avantage et que dans notre détresse, il y a souvent beaucoup à gagner. Ces arbres ont dû réagir et s'adapter, parfois même récupérer de multiples formes d'opposition et d'adversité. La foudre, un coup de vent violent, une forte accumulation de neige ou de glace, les empiétements et les mauvais traitements d'humains négligents, parfois même l'agression d'un arbre voisin. Ces circonstances contraires ont produit certains des arbres les plus robustes et les plus visuellement intéressants du bosquet. Ils compensent largement leur absence de beauté symétrique par leur détermination et leur caractère. D'après les expériences de ma propre vie, je témoigne que l'opposition, les épreuves et l'adversité façonnent le caractère et font progresser. Certaines des épreuves les plus difficiles et les plus exigeantes de ma vie, les sentiments d'insuffisance et de manque d'assurance au cours de mon adolescence, ma mission en Allemagne quand j'étais jeune et l'apprentissage de la langue allemande, l'obtention d'un diplôme d'avocat et la réussite de mon examen du barreau, mes efforts pour être un mari et un père acceptable et pour survenir aux besoins spirituels et temporels de nos 8 enfants, la perte de mes parents et d'autres êtres chers, et même la nature publique et parfois stressante de mon service en tant qu'autorité générale, dont la préparation et la présentation de ce discours ce soir, tout cela et plus encore, bien que difficile, m'a donné de l'expérience et a été pour mon bien. Je sais qu'il n'est pas facile de vous convaincre, jeunes gens, qu'un peu de souffrance vous est bénéfique, mais honnêtement, c'est le cas. Si nous voulons un jour recevoir tout ce que le Père a, cela n'arrivera pas sans que nous nous donnions en retour tout ce que nous avons. Notre Père céleste désire des fils et des filles nobles, et comme Léhi l'a enseigné, la sainteté ne peut s'obtenir qu'en passant par l'épreuve et par l'adversité. Les gens, comme les arbres, ont besoin d'opposition pour remplir la mesure de leur création. Troisième leçon, les arbres poussent mieux dans la forêt que dans l'isolement. Si vous y réfléchissez, il est très inhabituel dans la nature de voir un arbre tout seul. Ils sont presque toujours assemblés en bosquets. Avec le temps, les bosquets peuvent devenir des forêts. Cependant, le bosquet sacré est bien plus qu'un simple groupe d'arbres. C'est un écosystème compliqué qui comprend de nombreuses espèces de faune et de flore. Il y a une interconnectivité observable entre toutes les différentes variétés de fleurs sauvages, de buissons, d'arbustes, d'arbres, de champignons, de mousses, d'oiseaux, de rongeurs, de lapins, de cerfs et des autres créations qui se trouvent là. Ces espèces interagissent et dépendent les unes des autres pour leur nourriture et leur abri. C'est une synergie, un environnement social où elles peuvent toutes suivre leur cycle de vie. Le plan de Dieu pour notre vie prévoit pour nous une interconnectivité sociale du même type. Nous devons œuvrer notre salut ensemble et non pas isolément. L'Église construit des lieux de réunion par des ermitages. On nous demande de nous rendre dans une paroisse ou une branche bien déterminée, pas d'en choisir une à notre goût comme dans certaines religions. Cette règle sage requiert de nous que nous apprenions à nous entendre les uns avec les autres et à être responsables devant notre évêque ou notre président de branche, et non de fuir nous cacher quand les choses tournent mal. Il nous est commandé d'aimer notre prochain, ce qui inclut les membres de notre famille, et d'apprendre à aimer les gens les plus proches de nous est parfois bien plus difficile que d'aimer tout le monde. Depuis le début du rétablissement, il a été commandé aux saints de venir en Sion et de se réunir en communauté où ils peuvent vivre en bonne entente et se soutenir mutuellement en honorant l'alliance de leur baptême, de porter les fardeaux les uns des autres, d'être disposés à pleurer avec ceux qui pleurent et à consoler ceux qui ont besoin de consolation. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas plus prospérer dans l'isolement qu'un arbre solitaire. Les arbres saints ont besoin d'un écosystème. Les gens saints ont besoin les uns des autres. Heureusement, nous avons en chacun de nous le désir de vivre en société, d'avoir de la compagnie et des amis loyaux. En tant que membres de la famille éternelle de Dieu, nous recherchons tous la satisfaction et la sécurité que peuvent apporter des relations proches et durables. Vous apprendrez que la création de telles relations demande du temps, des efforts et de la charité en abondance. Comme Mormon l'a dit, la charité ne cherche pas son intérêt, ni ses propres objectifs, et certainement pas son propre plaisir. Bien que l'Internet et les réseaux sociaux offrent indubitablement une forme de vie sociale, ils ne remplacent pas la communication face à face, honnête et ouverte, qui doit se produire pour créer des relations authentiques et durables. Le meilleur et le premier, le meilleur laboratoire pour apprendre comment s'entendre avec les autres est certainement le foyer. C'est au foyer que nous apprenons les leçons du service, du désintéressement, du pardon et de la patience qui sont essentielles à la création de relations durables avec les autres. Je crois que c'est pour cette raison que pour être digne d'aller au temple, il est requis que nous vivions dans l'amour et l'entente avec les membres de notre famille. Heureusement, l'organisation inspirée de l'Église offre aussi des occasions et des situations magnifiques dans lesquelles nous pouvons nous épanouir socialement. De nos premières à nos dernières années, nous appartenons à une paroisse ou une branche et sommes dans des relations, dans une situation où nos relations avec les autres peuvent s'épanouir. Grâce aux appels de l'Église, aux réunions, aux cours, aux collèges, aux conseils, aux activités et à une variété d'autres occasions de nous associer, nous acquérons des caractéristiques et des capacités sociales qui aideront à nous préparer à l'ordre social qui existera dans les cieux. Parlant de cet ordre supérieur, le Seigneur a dit par l'intermédiaire de Joseph Smith, « Et cette même sociabilité qui existe parmi nous ici existera parmi nous là-bas. Seulement, elle sera accompagnée de gloire éternelle, gloire dont nous ne bénéficions pas maintenant. Si nous espérons jouir de la sociabilité des cieux et de la gloire qui lui est associée dans le monde à venir, nous devons continuellement mûrir socialement et spirituellement pendant que nous sommes sur la terre. Les gens, comme les arbres, s'épanouissent mieux en communauté que dans l'isolation, l'isolement. Quatrième leçon. Les leçons tirent leur force des nutriments créés par les générations d'arbres précédentes. Il y a eu un temps où les gens chargés de s'occuper du bosquet sacré avaient décidé que le bosquet devait avoir une apparence impeccable. Des projets de service pour les jeunes et pour les missionnaires étaient périodiquement organisés pour débarrasser le bosquet des arbres déracinés, des branches, des broussailles et même des souches et des feuilles mortes. Avec cette façon de procéder, la vitalité du bosquet a rapidement commencé à diminuer. La croissance des arbres s'est ralentie, moins de nouveaux arbres ont poussé, certaines espèces de fleurs sauvages et de plantes ont commencé à disparaître, et la présence de vie sauvage et d'oiseaux a diminué. Il y a plusieurs années, quand Frère Parrott a repris l'entretien du bosquet, il a recommandé qu'il soit laissé le plus possible à l'état naturel. Les arbres déracinés et les branches ont été laissés pour qu'ils se décomposent et enrichissent le sol. On a laissé les feuilles mortes là où elles tombaient. Il a été demandé aux visiteurs de rester sur les chemins tracés pour que le bosquet soit moins perturbé et que la terre dans le bosquet soit moins tassée. En quelques années, le bosquet a commencé à se régénérer et à se renouveler de façon remarquable. Aujourd'hui, il s'épanouit dans un état quasiment parfait avec une végétation luxuriante et une vie sauvage abondante. La leçon à tirer de cette expérience en gestion des forêts est chère à mon cœur. Depuis maintenant 7 ans, j'ai eu la bénédiction de remplir les fonctions d'historien et de greffier de l'Église. s'agit d'un appel qui a été créé par Joseph Smith, le prophète, en réponse au commandement donné par le Seigneur le jour où l'Église a été organisée. Voici, un registre sera tenu parmi vous. Depuis ce commencement, depuis ce jour, à commencer par l'appel d'Oliver Cowdery comme premier historien et greffier de l'Église, et jusqu'aujourd'hui, un remarquable registre de l'histoire de l'Église a été tenu. John Whitmer a remplacé Oliver Cowdery et le Seigneur lui a demandé de garder un historique de toutes les choses importantes qui seront pour le bien de l'Église et pour les générations montantes qui grandiront dans le pays de Sion. Pourquoi le fait de tenir des registres, de compiler, de préserver, de transmettre l'histoire a-t-elle une telle importance dans l'Église de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce essentiel pour vous, qui faites partie de la partie génération montante d'aujourd'hui, de vous souvenir des générations passées, d'en tirer de la force? En un mot, qu'avons-nous, personnes âgées, à offrir? Pour répondre à cette question, je suggère qu'il est impossible de vivre pleinement le présent et encore moins de planifier notre destinée future sans le fondement du passé. Il y a quelques mois, mon attention a été attirée avec force sur ce principe lorsque j'ai rencontré un couple merveilleux qui a vécu une épreuve tout à fait inhabituelle, dont je vous parle avec leur permission. Après quelques années de mariage et la naissance de plusieurs enfants, la femme a été victime d'un grave accident. Elle est restée plusieurs semaines à l'hôpital dans le coma. Quand elle s'est réveillée, elle avait complètement perdu la mémoire. Elle n'avait donc plus d'histoire. Sans mémoire du passé, elle n'avait plus de référence. Elle ne connaissait plus son mari, ni ses enfants, ni ses parents. En me racontant cette histoire, le mari m'a confié que pendant les premiers mois après l'accident, il avait peur que sa femme ne s'égare si on la laissait sans surveillance. Il craignait aussi que sa femme ne retombe plus amoureuse de lui. À l'époque où ils se fréquentaient, il était jeune, svelte, sportif, avec beaucoup de cheveux. Mais dans son âge mûr, il était plus corpulent et avait moins de cheveux. Heureusement pour tout le monde, un registre partiel avait été conservé. Le mari avait gardé des lettres que sa femme lui avait écrites avant et pendant sa mission. Cela prouvait qu'ils avaient effectivement été amoureux l'un de l'autre. Il avait aussi tenu un journal qui contenait des notes utiles. Graduellement, au fil des ans, la femme a récupéré une grande partie de son passé grâce à cette histoire que ses proches lui rappelaient. Cette situation unique et touchante illustre bien l'importance des relations entre passé, présent et avenir. Elle nous aide aussi à apprécier plus pleinement la définition de la vérité révélée par le Seigneur à Joseph Smith. La vérité, c'est la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir. La connaissance que nous avons de notre passé, grâce aux registres qui ont été tenus, et de notre avenir, grâce aux Écritures et aux enseignements prophétiques des prophètes actuels, nous offre un contexte qui nous permet d'utiliser sagement notre libre arbitre de notre vivant. En effet, cette connaissance en trois dimensions nous donne une perspective plus divine, parce qu'il nous rapproche de la capacité d'avoir, comme il le dit, toutes les choses présentes devant ses yeux. En tant que membres de l'Église venant de nombreux pays, nous avons tous en commun les débuts de l'histoire de l'Église. Il est important que nous nous familiarisions tous avec l'histoire de l'Église et surtout avec ce que j'appellerais ses histoires fondatrices. Ces histoires comme la première vision de Joseph Smith, l'avènement du livre de Mormon, les visites angéliques de Jean-Baptiste, de Pierre, Jacques et Jean, d'Élie, Élias et d'autres. Ces histoires qui contiennent les principes fondamentaux sur lesquels se base le rétablissement de l'Évangile. Malheureusement, à notre époque de technologie où l'information abonde et dont une partie critique certaines personnes et certains événements de l'histoire de l'Église, certains saints des derniers jours sont ébranlés dans leur foi et commencent à remettre en question des croyances de longue date. À ces personnes qui se posent des questions, j'exprime mon amour, ma compréhension et l'assurance que si elles respectent les principes de l'Évangile et poursuivent dans un esprit de prière leur étude de l'histoire de l'Église, en étudiant assez pour acquérir une connaissance plus globale plutôt que fragmentaire ou incomplète, le Saint-Esprit confirmera leur foi dans les événements essentiels de l'histoire de l'Église et remplira leur esprit de paix. Elles pourront ainsi s'affermir dans leurs convictions concernant l'histoire de l'Église rétablie et ne seront plus emportées à tout vent de doctrine. Je tiens à ce que vous sachiez que, comme beaucoup d'entre vous, j'ai basé ma vie sur ces sentiments de paix à propos de la première vision de Joseph Smith et d'autres événements importants de l'Évangile rétabli. Et comme beaucoup d'entre vous, je sais que nous ne serons jamais déçus. Dans sa forme la plus basique, l'histoire est un rapport sur des gens et sur leur vie. Et de leur vie découlent des récits et des leçons qui peuvent renforcer ce que nous croyons, ce que nous défendons et ce que nous devons faire face à l'adversité. Tous les récits qui font notre histoire n'ont pas la nature spectaculaire de celle de la première vision de Joseph Smith ou de la mission de Wilford Woodruff en Angleterre. En fait, certaines histoires véritablement remarquables proviennent de la vie des saints des derniers jours, très ordinaires, ce que beaucoup d'entre nous sont. Elles nous sont particulièrement chères et, je pense, utiles quand elles concernent nos propres ancêtres. Par exemple, dans les années 1920, mon grand-père et ma grand-mère Jensen, malgré de nombreuses heures de labeur, ont été forcés de rendre aux propriétaires la ferme qu'ils étaient en train d'acheter et où ils vivaient dans l'État d'Idaho. Avec leurs jeunes enfants, ils voulaient retourner en Utah, dans leur ville d'origine. Mais ils ne pouvaient quitter l'Idaho avant d'avoir épongé leur dette de $350. Cela semble peu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un montant important. Mon grand-père avait vainement essayé d'emprunter de l'argent à des gens qui en avaient. À cause de leur dénuement, il était hors de question d'emprunter une banque. Ma grand-mère et lui priaient chaque jour pour avoir de l'aide. Un dimanche matin, à une réunion de la prêtrise, un homme que mon grand-père connaissait à peine s'est approché de lui et lui a dit qu'il avait entendu parler de ses problèmes et qu'il lui prêterait les $350 à la condition que, quand mon grand-père arriverait en Utah, il le lui rembourse aussi vite que possible. Leur accord a été scellé d'une poignée de main et mon grand-père a tenu parole. Cette histoire simple, rapportée par ma grand-mère Jensen, est un trésor familial. Elle m'inspire parce qu'elle illustre les qualités que sont le dur labeur, l'honnêteté, la victoire sur l'adversité, la solidarité familiale et, chose plus importante encore pour moi, elle montre la main de Dieu dans la vie de mes fidèles grands-parents. Leur exemple et l'exemple d'autres personnes, grandes et petites, des générations passées, m'apportent beaucoup de force et d'encouragement. Vous trouverez peut-être des histoires similaires dans votre propre pays, dans votre propre famille. Là où c'est le cas, je vous exhorte à récolter ces histoires, à les préserver et en parler. Prenez soin de les transmettre d'une génération à l'autre. Mes enfants, et maintenant surtout mes petits-enfants, aiment toujours ce que je leur raconte des histoires de quand j'étais petit garçon. J'ai entendu dire qu'un peuple ne peut pas être plus grand que ses histoires. Et je crois que c'est aussi vrai pour les familles. Les bons récits, s'ils sont vrais, font de la bonne histoire. Souvenez-vous que les gens, comme les arbres, tirent leur force des nutriments créés par les générations précédentes. Maintenant, pour terminer, je veux que vous retourniez avec moi au bosquet sacré. Vous teniez avec moi près l'un de ces arbres témoins. Ce sont des arbres qui étaient en train de pousser dans le bosquet il y a 192 ans, au temps de la première vision de Joseph Smith. Trois d'entre eux sont toujours en vie dans le bosquet et trois sont des témoins morts qui restent debout grâce aux habiles efforts de préservation de Frère Parrott. Quand nous étions en mission près de Palmyra, il m'arrivait parfois d'aller seul dans le bosquet sacré et de me tenir avec révérence près de mon arbre témoin préféré. J'imaginais alors que si cet arbre avait pu parler, il m'aurait raconté ce qu'il avait vu en ce jour de printemps 1820. Mais je n'avais pas vraiment besoin que cet arbre me le dise. Je le savais déjà. En vertu des expériences et des sentiments spirituels qui ont débuté dans ma jeunesse et qui se poursuivent encore aujourd'hui même, je suis parvenu à savoir, indépendamment de quiconque, que Dieu le Père vit. Je sais aussi que son Fils Jésus-Christ est le Sauveur et le Rédempteur de toute l'humanité. Je sais que ces deux êtres glorifiés sont apparus à Joseph Smith au printemps 1820 dans le bosquet sacré. Ils ont suscité Joseph comme prophète fondateur de cette dispensation finale de l'Évangile. Travaillant sous leur direction divine, Joseph a traduit le livre de Mormon, a reçu les clés et l'autorité de la prêtrise et a organisé à nouveau l'Église du Christ en ces derniers jours. Nous sommes grandement bénis de vivre à cette époque et d'être membres de l'Église du Christ. Ces vérités glorieuses dont j'ai témoigné ont pris naissance dans le bosquet sacré. De même que figurativement, vous vous êtes tenu avec moi ce soir dans le bosquet sacré, tenez-vous toujours en esprit et dans votre cœur, dans cet endroit sacré. Et restez fidèles aux vérités que Dieu a commencé à révéler là-bas. Souvenez-vous aussi des leçons de vie que le bosquet sacré nous enseigne. Quand les pouvoirs des ténèbres cherchent à vous détruire, comme ils ont jadis voulu le faire pour un jeune Joseph Smith qui se posait des questions, tenez-vous dans le bosquet sacré et souvenez-vous de la colonne de lumière plus brillante que le soleil. Quand l'opposition et l'adversité vous barrent le chemin et que l'espoir s'estompe, tenez-vous dans le bosquet sacré et souvenez-vous que toutes ces choses vous donneront de l'expérience et seront pour votre bien. Quand la solitude et l'isolement vous accablent et que vous vous débattez pour créer des relations humaines enrichissantes, tenez-vous dans le bosquet sacré avec la communauté des saints des derniers jours qui ont fait alliance d'aider à soulager vos fardeaux et de vous réconforter dans vos besoins. Et quand les expériences, les gens ou les vérités contradictoires s'attaquent à votre foi et créent un doute à propos du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ, tenez-vous dans le bosquet sacré et puisez de la force et de l'encouragement dans les générations de fidèles saints des derniers jours qui se sont tenus là avec constance avant vous. C'est là ma prière pour vous, mes jeunes amis, et je l'offre avec amour et au nom de Jésus-Christ. Amen.
Père céleste, nous sommes reconnaissants de l'occasion que nous avons eue d'écouter des paroles de sagesse et d'inspiration. Nous te demandons de bénir chacun d'entre nous afin que nous appliquions ce message à notre vie et que nous nous souvenions de nous tenir en des lieux saints. Nous te remercions pour l'établissement de l'Évangile et pour Joseph Smith, le prophète, et son exemple de consécration et de sacrifice. Nous te demandons d'accorder à nos dirigeants de l'Église ce dont ils ont besoin et de nous aider à toujours nous souvenir de notre Sauveur et à être des exemples dans notre façon de vivre l'Évangile et à le faire connaître à nos amis et à nos voisins. Nous t'aimons beaucoup et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.